VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, Carrefour Sciences et Santé avec Camille Grosdidier. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Au moins 25 personnes, dont un enfant de 2 ans, ont été tuées et 32 blessées ce mardi par l'explosion d'une bombe attribuée aux islamistes de Boko Haram dans des bureaux de l'administration locale à Zaria, dans le nord du Nigeria. L'information a été confirmée sur Facebook par le gouverneur de l'état de Kaduna, Nasir Ahmad El Roufaï. On fait le point avec Jacques Aristide.
La bombe a explosé le matin au moment où des instituteurs et d'autres fonctionnaires faisaient la queue pour subir des contrôles d'identité d'après l'AFP. En l'absence de revendications, les soupçons se portent sur Boko Haram, très actif dans la région. Zaria, une ville à majorité musulmane, a déjà été la cible d'attaques des islamistes. Depuis l'entrée en fonction du nouveau président Muhammadu Buhari le 29 mai, ces derniers ont multiplié leurs opérations. Lundi soir, une jeune kamikaze de 13 ans avait péri dans un attentat manqué près d'une grande mosquée de Kano, la plus importante ville du nord du Nigeria, après 2 attentats meurtriers dimanche à Jos et un autre dans une église de Potiskum. Le président Buhari a fait une priorité de la lutte contre les insurgés, mais n'a pas réussi pour l'instant à faire cesser le bain de sang.
Lutte contre le terrorisme au Mali. Ali Ag Wadosen, responsable malien d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, a été tué dimanche par les forces spéciales françaises de l'opération Barkhane. D'après le communiqué de l'armée française, 2 militaires français ont été blessés au cours de cette intervention qui s'est tenue dans la région de Kidal, dans le nord du Mali. 2 autres terroristes ont été capturés. Il faut rappeler que Ali Ag Wadosen, djihadiste Touareg, avait été relâché le 9 décembre 2014 par Bamako en échange d'un otage français. En Centrafrique, des hommes armés non identifiés ont fait irruption la nuit dernière dans les locaux de la radio nationale, blessant l'un des 3 gendarmes de faction. Les assaillants, qui seraient une dizaine, ont forcé la régie puis tenté de s'introduire en vain dans le studio principal avant d'être repoussés par les forces onusiennes de la MINUSCA. Une enquête est ouverte pour déterminer s'il s'agit d'une tentative de coup d'État ou d'un braquage. Des précisions avec le directeur général de Radio Centrafrique, Éloi Pelongo, joint par Félix Epassi Zembrou.
Il était environ entre 2h du matin et 3h du matin lorsque un groupe d'assaillants habillés de tenues militaires couleur désert ont fait irruption au niveau de la radio. Ils ont neutralisé tout d'abord les 2 gardes qui étaient là, c'était des gendarmes. Ils ont donc forcé l'entrée principale de la radio. Ils ont tenté en vain de pouvoir pénétrer dans le studio.
Ils étaient au nombre de combien ces assaillants ?
On parlait au moins d'une dizaine de personnes, puisque 2 sont rentrés pour les opérations. Mais sur la voie qui mène à la radio et tout autour, il y avait la présence de personnes habillées, tout en armes également, et d'autres qui tentaient d'escalader du côté ouest de la radio.
Selon vous, monsieur le directeur général, s'agit-il d'une tentative de coup d'État ou alors d'un simple acte de braquage ?
Braquage, je ne crois pas du tout. Si hypothèse il y a, je pourrais simplement dire que ça pouvait être certainement un coup d'État, dans la mesure où ils sont venus. Et c'est pour passer le message, puisque c'est surtout les studios qui les intéressent. Et aucun bureau n'a été donc cassé, donc il n'y a pas eu cas de vandalisme.
Éloi Bélongo, directeur général de Radio Centrafrique. Législative burundaise, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, rafle 77 des 100 sièges à l'Assemblée nationale. Tels sont les résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante. Les indépendants de l'espoir, menés par Agathon Rwasa et Charles Djidjé, obtiennent 21 sièges. Et cette coalition d'opposition avait décidé de boycotter le scrutin, mais la CENI a affirmé n'avoir jamais reçu de requête formelle demandant le retrait des listes de ses candidats. 2 sièges reviennent à l'UPRONA, allié du parti au pouvoir. Quant à la présidentielle prévue ce mois-ci, nous y reviendrons dans Le Monde aujourd'hui et ça sera dans un peu moins d'une vingtaine de minutes. Le président congolais Denis Sassou Nguesso rencontrait son homologue français aujourd'hui à Paris. François Hollande lui a rappelé l'importance de préserver les institutions. Le point avec Michel Joseph.
S'agissant des enjeux d'approfondissement de la démocratie en Afrique, le président français a indiqué son attachement à la préservation et à la consolidation des institutions, insiste le communiqué de l'Élysée. Le président français a également rappelé son attachement au principe de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union africaine qui suppose que les réformes constitutionnelles soient fondées sur un consensus. Un message qui fait écho à la situation politique en République du Congo. Denis Sassou Nguesso, âgé de 72 ans, a dirigé le pays pendant 30 ans. À l'approche des élections, le chef de l'État congolais a convoqué un dialogue national du 11 au 15 juillet pour discuter de l'organisation des futurs scrutins et de l'avenir des institutions. Mais l'opposition redoute qu'il ne s'agisse en réalité d'un stratagème pour modifier la constitution afin de lui permettre de briguer un nouveau mandat l'an prochain. La constitution congolaise, adoptée en 2002, le lui interdit à double titre. Elle limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et limite à 70 ans l'âge des candidats à la fonction suprême.
Au Kenya, 14 personnes ont été tuées dans un village du nord-est du pays dans une attaque attribuée aux islamistes somaliens Shabab, responsables d'une série de raids meurtriers dans la région ces derniers mois. Claire Morin-Gibourg.
À 2 semaines d'une visite à Nairobi du président américain Barack Obama, l'insécurité persiste dans cette région excentrée et pauvre du Kenya qui partage une frontière de 700 km avec la Somalie. Une nouvelle attaque a eu lieu tôt ce matin dans le village de Sokobuzi, à proximité de Mandera. Aucune revendication n'a encore été faite, mais les autorités ont immédiatement pointé du doigt les militants islamistes d'Al-Shabaab. Ralliés à Al-Qaïda, ils mènent depuis 2007 une insurrection armée en Somalie et ont, à plusieurs reprises, mené des incursions sanglantes au Kenya, dont la terrible attaque contre l'université de Garissa, qui avait fait 148 morts en avril dernier. Les Shabab ont multiplié les attaques meurtrières au Kenya depuis que l'armée kenyane est entrée en Somalie en octobre 2011 pour les combattre. Quelques 3500 Kenyans servent toujours en Somalie au sein de l'AMISOM, la force de l'Union africaine, qui compte 22 000 soldats, burundais et ougandais notamment.
Au Soudan du Sud, le nombre de civils réfugiés dans les bases de l'ONU ne cesse de croître. Pour la première fois depuis le début de la guerre civile, il y a 18 mois, ils sont désormais plus de 150 000 à s'être abrités dans les 6 bases de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. C'est ce qu'indique l'ONU.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, crise en Grèce, l'Eurogroupe dit attendre une nouvelle lettre du gouvernement grec présentant un ensemble de propositions claires et uniques. Le point avec Camille Grosdidier.
L'Eurogroupe tiendra mercredi une téléconférence lors de laquelle la question d'un recours par Athènes au mécanisme européen de stabilité sera évoquée. Sur 5 ans, la Grèce a accumulé 350 milliards de dollars de dettes. Le premier ministre grec Alexis Tsipras préconise d'en effacer 100 milliards. Mais les créanciers d'Athènes font toujours la sourde oreille. Non, nous ne sommes pas disposés à alléger la dette de la Grèce, a dit le ministre finlandais des Finances, Alexander Stubb. On l'a déjà fait en 2011, on l'a déjà fait en 2012, a-t-il fait valoir. Si certains dirigeants européens sont toujours bien disposés vis-à-vis d'Athènes, d'autres restent sceptiques. Une chose est certaine, M. Tsipras s'est fait dire sans embâge qu'il doit soumettre un programme crédible s'il espère une aide accrue. La balle est dans son camp, à lui de la saisir. Si le gouvernement grec s'exécute, l'Europe tentera pour sa part de parvenir à un accord le plus vite possible. Il s'agira d'évaluer la situation financière et les besoins de la Grèce. Une fois le point fait, l'Eurogroupe décidera formellement d'entamer ou non de nouvelles discussions.
Encore un report de l'accord final sur le nucléaire iranien. Cette fois, les puissances mondiales et l'Iran se donnent jusqu'à vendredi, au lieu de ce mardi, pour mettre au point les mécanismes de vérification du programme nucléaire iranien et la levée des sanctions internationales. Nous avons fait des progrès considérables dans tous les domaines, mais c'est un travail très technique et d'une importance cruciale pour tous les pays concernés, a dit Mary Harf, porte-parole de la délégation américaine aux discussions de Vienne. Auparavant, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, avait fait état de plusieurs points épineux à résoudre, disant que le délai est flexible. Voilà pour ce bulletin au micro Morgane Guiriec.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.